Avec ce soir, Jérôme Sainte-Marie, responsable de la formation des cadres du RN. Bonsoir Jérôme Sainte-Marie.
Bonsoir.
Bonsoir Alain Duhamel.
Bonsoir.
On va voir les trois concessions faites par le Premier ministre Michel Barnier. Alors, on dit au Rassemblement national essentiellement, même s'il lui dit qu'il a écouté tout le monde et qu'il s'agit d'un geste pour les Français. Pas d'augmentation des taxes sur l'électricité, non-réduction des allègements de charges pour les entreprises et baisse sensible de l'aide médicale d'État aux sans-papiers. Est-ce que Michel Barnier, du coup, peut tenir à Matignon ?
Écoutez, s'il y parvient, il faut reconnaître que c'est déjà un exploit, que c'est un petit peu une entorse aux lois de la probabilité. Bon, on sait très bien qu'il n'a pas de majorité, il n'a pas d'alliance avec le président de la République, qu'autour de lui, son électorat, ses militants, ses élus le poussent à la censure. On se pousse à être censuré. On voit que, au-delà de ça, on est déjà en pleine crise budgétaire, en pleine crise, en fait, économique. On voit quelle rapidité tout ça est en train de se dérégler, aussi bien les agriculteurs que dans l'industrie. En fait, il est dans un climat où tout va mal. Et il dépend uniquement de la décision que finira par prendre Marine Le Pen, dont, je le disais maladroitement, mais c'est ce que je voulais dire, à la fois les électeurs, les militants et les élus souhaitent qu'il y ait cette censure. Donc, pour Michel Barnier, la situation est, elle n'est pas seulement précaire, elle est sur le fil. Bon, cela étant, d'une part, il est tenace et habile. Il sait reculer quand il faut reculer, il le montre. Aujourd'hui, il recule. Est-ce qu'il aurait dû reculer avant ? Ça n'est pas sûr. Il fallait sans doute attendre, effectivement, que la tension soit à son paroxysme pour qu'il recule. Mais il recule, il prend les Français à témoin. Il joue évidemment du fait que, à partir du moment où il fait vraiment des concessions et où il donne le sentiment d'écouter une personne, d'écouter Marine Le Pen, mais en fait de l'écouter, c'est incontestable. Il veut donner le sentiment qu'il l'écoute. À partir de ce moment-là, si elle baisse le pouce et qu'elle décrète la censure, eh ben forcément, il y a un risque de, si ça se passe mal à ce moment-là, s'il y a une crise financière qui n'existe pas de façon intense, mais qui peut se déclencher du jour au lendemain, eh ben dans ces cas-là, peut-être qu'il a une chance de s'en tirer.
Alors, il faut quand même rappeler à chaque fois que, pour des raisons d'accords électoraux, entre les deux tours, le Rassemblement national n'est que le troisième groupe à l'Assemblée nationale. Donc, quand on dit c'est effectivement Marine Le Pen qui peut appuyer sur le bouton, c'est un peu excessif. C'est-à-dire qu'il faut qu'il y ait une occasion où on soit sûr que la gauche, pas seulement la France insoumise, la gauche vote la censure, et que nous, à ce moment-là, ça soit le cas. C'est le cas, sauf que regardez, avec la question de l'AME, certains vont peut-être commencer à dire, ça peut devenir beaucoup plus compliqué que ça, mais en tout cas, il faut que ce soit là-dessus. Alors le problème, c'est que la censure, si elle est votée, elle sera votée de fait par la gauche, et par le Rassemblement national. On voit déjà le procès qui est fait par certains journaux conservateurs, on va dire, ce matin, et qui dit, regardez, c'est l'alliance des extrêmes qui se met en place. C'est pour ça que ce choix n'est pas un choix évident. Pour aller plus loin, quand on regarde les sondages, il y a un sondage IFOP tout à fait intéressant qui vient de publier pour Sud Radio, mais un sondage non moins intéressant qui avait été fait pour BFM TV par Elab, dans ces deux cas, on voit que se reconstitue sur cette question, finalement, la France, je reviens toujours à ça parce que je pense que c'est fondamental, la France du oui en 2005 et la France du non en 2005. La France qui a voté non, à gauche ou du côté du Rassemblement national, veut la censure. Et inversement, disons que la France qui a voté oui, c'est-à-dire ça fait du monde en réalité. Hein. Ça fait donc les macronistes, ça fait quand même une bonne partie de la droite. Ça fait certains socialistes, et vous regardez les sympathisants socialistes, ils sont parfois assez
électeurs,
prudents.
Électeurs, surtout.
Voilà.
Électeurs, plus.
Pas des électeurs, je parle pas de oui, des électeurs socialistes. Donc, en fait, la majorité d'opinions pour arriver à la censure existe, mais elle n'est pas massive pour le moment. elle progresse. Du côté des sympathisants de la France insoumise et des sympathisants du Rassemblement national, je le vois dans les sondages et je le vois sur le terrain, il y a une demande très forte. Mais en tout cas, j'essaye de, avant d'aller plus loin, j'essaye de montrer quand même la complexité de la situation et de voir que si une censure doit avoir lieu, c'est pas deux forces qui s'opposent sur tout le reste et qui donc ne pourront pas composer une majorité alternative.
Oui, mais comment Marine Le Pen peut encore justifier la censure alors qu'elle vient d'obtenir quand même trois concessions majeures, l'attaque sur l'électricité qui a d'ailleurs été impopulaire partout, hein, tout le monde, personne n'en voulait.
Personne n'aime payer plus.
Il y a aussi le coût du travail qui devait être plus important, et puis donc cette aide médicale d'État qui n'est pas supprimée, mais Michel Barnier insiste bien qu'il souhaite sensiblement baisser les soins pris en charge par cette aide médicale pour les sans-papiers.
Oui. Oui,
la donc quand même, comment justifier ça... Après, maintenant, je continue à censurer.
Si elle le veut, elle le peut, puisque elle dirige.
Enfin, il faut
l'expliquer aux Français. Elle dirige la formation la plus disciplinée. Donc, si elle le veut, elle le peut. Deux, si elle a besoin d'une argumentation, elle ressort tout son programme et elle dit, moi, j'ai 20 points sur lesquels j'insiste, etc., etc. Vous répondez à 3, franchement ça n'est pas assez, il faut qu'on change de politique, vous ne changez pas de politique, vous prenez un tout petit tournant. Bon, inversement, pour aller dans le sens contraire de ce que je viens de vous dire, il y a un argument dont on ne parle pas beaucoup, mais qu'elle doit avoir à l'esprit, qui est quel est l'intérêt immédiat, l'avantage immédiat qu'elle aurait à censurer Michel Barnier pour avoir à sa place, un gouvernement qui serait peut-être soit un peu plus à gauche, soit beaucoup plus technique, mais qu'est-ce que ça lui donnerait dans l'immédiat de plus ?
Alors, pour l'instant...
Et la question est bonne.
La question est excellente.
Alors, Jérôme, il faut répondre.
La question est excellente, comme toujours. Mais moi, j'ai pas peur de le dire, si vous voulez, c'est une question qui n'est pas simple, véritablement. Il y a des fois où, effectivement, on a des échanges peut-être plus frontaux et sur lesquels j'ai des opinions extrêmement affirmées. Là, je reconnais que c'est un vrai dilemme, si vous voulez, stratégique, qui se pose en réalité pour toutes les forces politiques, mais notamment pour le Rassemblement national.
Pas pour le nouveau Front populaire. Il sait qu'il veut la censure.
La question, c'est qu'en fait... on a une base populaire qui, elle, est dans une opposition très résolue par rapport à Barnier, mais surtout par rapport à Macron.
Ben oui, c'est
Macron,
ça.
Macron, vous l'avez vu.
C'est par rapport à Emmanuel Macron.
Emmanuel Macron, avec 24% de popularité de chez BVA, est à son niveau le plus bas depuis qu'il a été élu. C'était le niveau qu'il avait atteint en novembre 2018 au moment des Gilets jaunes.
Non, mais c'est vrai. Mais
donc,
c'est vrai,
pression de la base est très forte.
L'impopularité est pour Emmanuel Macron.
Oui, beaucoup plus que pour Barnier.
Michel Barnier, il n'est pas populaire parce que il est dans des conditions.
Et il vient d'arriver aussi, hein. Vous savez, les premiers ministres.
Oui, je sais.
Mais dans le même sondage de Delab pour BFM TV, les Français disent qu'ils ne voient pas beaucoup de différence entre ce que fait Michel Barnier et Emmanuel Macron. Moi, ça m'a interpellé, ça.
Je pense que ce soir, quand ils nous auront écouté tout l'après-midi, ils verront déjà des différences. Ce qui a été proposé aujourd'hui, bon, c'est-à-dire des concessions. Les concessions, ce sont des concessions par rapport à la ligne qu'incarnait Emmanuel Macron.
J'insiste beaucoup sur le...
Non, renoncer à augmenter les cotisations patronales, ça c'est pour les macronistes, c'est Gabriel Attal qui le demandait.
Ah, pas seulement.
Oui, mais c'est le coût du travail.
Vous avez vu qu'il y a eu une évolution assez rapide du Rassemblement national depuis les 6 derniers mois pour expliquer que les entreprises c'était essentiel et qu'il fallait pas les handicaper par rapport aux autres pays.
Nous avons un discours sur le Rassemblement national sur la production qui est extrêmement prononcé, vous le savez.
Qui a évolué dans un sens pro-entreprise depuis 6 mois.
Pro-entreprise, oui. Pro-entreprise, c'est pas être pour l'argent, c'est vraiment être pour l'entreprise.
Pro-entreprise,
et pour la production. Ça, je vous le confirme. Les entreprises de toute taille, d'ailleurs, les actifs sont ceux qui votent massivement, les actifs du privé, pour le Rassemblement national. Donc cette base, il ne faut pas la décevoir. Il faut maintenir un certain degré de radicalité, parce que c'est bien, si vous voulez, la demande populaire que nous avons.
Quitte à effacer la stratégie de la dédiabolisation.
Cependant, il faut conserver justement cette question, non pas de dédiabolisation, parce qu'en fait elle existe déjà, mais de crédibilisation.
Voilà.
Le problème, c'est la crédibilité gouvernementale. Actuellement, la stratégie de Marine Le Pen fonctionne à merveille, puisque chaque concession que fait M. Barnier semble légitimer, et à mes yeux légitime, l'ensemble de nos propositions qui vont beaucoup, beaucoup plus loin. Ceci étant dit, il manque encore énormément de choses. Il y avait des propositions sur la baisse de la contribution française à l'Union européenne qui représente une somme énorme. Il y a aussi les questions. Là, il y a un contre-budget qui a été proposé par la Rassemblement nationale en octobre dernier et avec notamment des propositions, avec des économies très importantes pour en supprimant toute une série d'aides ou de, d'institutions publiques.
Enfin, les propositions de dépenses étaient nettement plus précises que celles d'économies.
Des propositions de dépenses, mais qui étaient axées sur le thème de la production. Plus toutes les dépenses liées à l'immigration, à l'aide au développement, mais ça, je ne vous apprends rien. Donc, si vous voulez, là, ça fait des petites concessions dans notre sens, et cependant, qui ne vont pas très loin. Pour l'instant, je pense que ça va faire renforcer la crédibilité du Rassemblement national. Ça peut plaire à des gens qui, notamment issus de la droite classique et appartenant à des catégories. Là, je pense que sur ces sujets-là, il faut raisonner surtout en catégories sociales. Notamment, les retraités peuvent être rassurés par notre esprit de responsabilité.
S'il n'y a pas la censure.
Combien de temps ça peut durer? Je ne sais pas. La pression est sur M. Barnier.
Le Premier ministre, Michel Barnier, a dit qu'il faisait ses gestes pour les Français. Et il le dit d'ailleurs, tous les Français que je vois, que je croise, me disent « Tenez bon, monsieur le Premier ministre ». Voilà, donc il joue cette carte des Français et de la stabilité. Les Français me disent « Tenez bon ».
C'est classique, ça, les Premiers ministres rencontrent toujours plein de gens qui les applaudissent, etc. Mais enfin, il se trouve que ceux qui viennent, c'est ceux qui l'aiment bien. Donc, je n'en tirerai pas des grandes conclusions électorales.
Non, ce qui est terrible pour monsieur Barnier, c'est que ça affaiblit la cohérence de son discours. On a l'impression qu'on a un budget qu'on est en train de négocier par bout. Il n'y a aucune solution, si vous voulez, pour nous tirer
Michel Barnier.
Sauf, et je vais finir juste, excusez-moi de vous interrompre là-dessus, mais il y a un argument quand même qui, à mon avis, l'affaiblit. À court terme, c'est rentable, mais qui l'affaiblit à terme, c'est quand même le chantage au marché financier. En disant, ne me faites pas de mal, sinon les marchés financiers vont sanctionner notre pays. Oui. Ça, c'est vraiment un argument qui est un aveu de faiblesse pour des gens qui ont été au pouvoir depuis des années, qui déjà, moralement et politiquement, quand même difficile à entendre, et de jouer les marchés financiers contre le...
C'est une vraie stratégie, le chaos, et surtout tenu par des gens qui sont au pouvoir depuis des décennies, c'est terrible.
C'est bien gentil de dire ça, parce que c'est habile en apparence. La réalité, c'est qu'on est à un moment économique où on est dans une réelle grande difficulté, et que si, d'une part, je le souhaite pas, hein, mais si d'une part vendredi, Standard & Poor's explique que les perspectives de la France sont vraiment mauvaises, si le gouvernement est censuré et donc que par principe la France donne une image de très grande instabilité, c'est évident qu'il y aura des répercussions qui seront de nature financière. C'est évident. Alors vous dites et vous n'avez pas tort. C'est une sensibilité politique qui est au pouvoir depuis longtemps, etc. Enfin, de façon d'ailleurs variée, mais enfin, en gros, je vous dirai pas le contraire. Et c'est leur politique. Mais ça, peu importe, au moment où on est vraiment au cœur d'une crise. Et on est déjà, quand même, déjà dans une situation de crise. Et ça peut aller plus loin. Dans ces cas-là, qui est une angoisse, c'est un fait politique, et c'est un fait politique naturel et inévitable.
Merci Jérôme Sainte-Marie, merci Alain Duhamel.